Tous, bienvenue dans La Locale, le direct d'info locale qui donne la parole aux habitantes et aux habitants du territoire. Vous êtes avec Karina et avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Karina.
Et nous sommes aussi aujourd'hui bien entourés. On a les stagiaires donc de 3e, Mathias et Noan.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis on a Stéphanie Roche de Danse Avenue.
Bonjour.
Qui va nous parler incessamment sous peu.
Alors, au sommaire de cette locale du mercredi 3 février, comme tu viens de le dire, Karina, on accueille Stéphanie Roche de Danse Avenue, avec qui on va faire des claquettes avec la langue aujourd'hui. Ensuite, on aura Mathias qui nous donnera une info locale du jour. On partira ensuite du côté du collège Gérard Gaud à Bourg-lès-Valence avec Christelle, une enseignante, pour des problèmes de grève, pour la manifestation de mécontentement et puis aussi pour une belle initiative de solidarité entre collégiens et collégiennes des élèves du collège Gérard Gaud. Ensuite, on accueillera Théo de Valence Diversité avec qui on parlera LGBTQIA+. Et pour finir, Noan nous présentera une bonne nouvelle de 2020.
Et pour commencer, nous sommes donc avec Stéphanie Roche de l'école de danse Danse Avenue. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ?
Alors moi, je suis la directrice de l'école Danse Avenue à Valence. Voilà, je suis claquettiste, donc je fais du bruit avec mes pieds et j'essaye de maintenir en ce moment l'activité de danse au sein de l'école. Alors les cours de danse pour les enfants ont lieu, mais pour les adultes, malheureusement, on est en stand-by, donc c'est vrai qu'on essaye de garder le lien avec nos élèves en ce moment.
Pour les enfants, les cours ont continué.
Oui, pour les enfants, nous avons le droit de continuer. Donc aujourd'hui même, d'ailleurs le mercredi, il y a cours pour enfants. Ce qui nous permet quand même de garder un lien, parce que pour eux, c'est aussi important de venir à l'école de danse. Mmh. Et c'est vrai qu'en raison de tout ce qui se passe en ce moment, ça fait du bien aussi, je pense, aux enfants de continuer à nous voir.
Quand tu dis enfants, c'est quelle catégorie d'âge et sur quel cours ?
On démarre à 3 ans. Donc à partir de 3 ans, on peut commencer la danse et à peu près jusqu'à l'adolescence. Donc voilà, on n'a pas le droit aux adultes, mais ça va à peu près jusqu'à 16-17 ans.
D'accord, ouais, ça fait quand même du début à la fin de l'enfance.
C'est ça, on a de l'éveil à la danse, initiation, jazz, hip-hop, street dance. Il y a du théâtre aussi. Et voilà, donc tous les enfants ont la chance. Maintenant, on se rend compte que c'est une chance d'avoir une activité culturelle.
Et sinon, vous vous proposez aussi des formations qui sont en ce moment reportées, mais qui auront peut-être lieu...
Alors, on espère. Dès que l'ouverture va être possible, on a des stages de comédie musicale pour ados et adultes. Donc, on en fait 3 dans l'année. Donc, pareil, on a des dates prévues et on languit l'ouverture pour pouvoir les mettre en place. Et on espère que les gens seront au rendez-vous.
Est-ce qu'il reste encore des places pour ce stage
oui.
de comédie
musicale ? Pour l'instant, oui, on a des dates et on diffusera dès qu'on aura la possibilité d'ouvrir.
Donc ça ressemble à quoi ce genre de formation ?
Alors c'est un stage pour débutants, donc n'ayez pas peur de venir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. On voit brodouer devant nous et on se dit « ah non, c'est pas possible ». Eh bien si c'est possible, en 2 jours on travaille. Moi je travaille avec une pianiste qui s'appelle Mélanie Favre-Petit-Mermet de Grenoble, avec qui je joue aussi « J'ai 3 amours », un spectacle. Et c'est vrai qu'avec Mélanie, on se connaît depuis 5 ans maintenant et ça marche super bien. Elle vous apprend à chanter et elle dit que tout le monde peut chanter.
Aïe.
Voilà, même des gens qui disent « non, mais moi, jamais de la vie », si, vous pouvez chanter. Donc avec elle, on va apprendre 2 chansons et moi, je vais mettre en scène en fait cette chanson. Donc c'est pas de la danse pure technique, on fait des pirouettes et tout ça. En fait, c'est comme à New York, on va mettre en place sur les parties non chantées de la mise en scène dansée. Donc vraiment, des débutants peuvent venir, il n'y a aucun souci. Et l'objectif, c'est qu'en 1 jour et demi, on va réussir à mettre en scène 2 chansons. Et on y arrive et les gens sont assez surpris du résultat.
Ça donne envie.
D'ailleurs, vous êtes inscrite pour la prochaine. D'après ce que j'ai compris.
Oui, moi, je confirme mon inscription.
Ça se passe sur un week-end ou
c'est ça. Du samedi 14h au dimanche 17h. On mange ensemble, c'est un petit week-end. Voilà, les hommes aussi sont les bienvenus. On a des garçons. Et après, tout âge, hein, ça démarre à l'âge de 13-14 ans. Il faut être un petit peu, voilà, un ado, c'est possible, jusqu'à nos limites d'âge.
Très bien.
Et à quoi ça ressemble en ce moment, le quotidien à l'école, pour vous, vu la situation ?
J'envoie des mails pour dire à mes élèves qu'il me manque. Alors, on a essayé de faire quelque chose qui était assez rigolo, parce qu'on essayait toujours de... Alors, moi, j'ai fait des petits tutos. On a monté une chaîne YouTube pour que les élèves puissent faire chez eux des claquettes, du jazz, du pilates. Tous les profs s'y sont mis, c'est super. Là, j'ai été contactée hier soir par une plateforme où, là, en claquettes, on va tous faire des cours en Zoom, via Zoom. Et là, les gens vont pouvoir... D'ailleurs, les élèves ne sont encore pas au courant, mais ils vont pouvoir aller sur Zoom, prendre des cours de claquettes avec plein de profs français. Donc vraiment, je vais mettre ça en place. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? Là, on a envie de faire une vidéo. Donc, si mes élèves m'écoutent, qu'ils lisent leur mail et qu'ils nous envoient la vidéo, on attend ça avec impatience, parce que avec tous les profs, on a fait une petite vidéo qu'on a mis en ligne pour leur souhaiter une belle nouvelle année, en espérant qu'elle soit dynamique et joyeuse. Et on demande à nos élèves de faire pareil, et nous, on va leur faire après un lien pour qu'ils puissent, un petit clin d'œil. Mais on essaye de garder le lien, après, c'est pas facile. Hein. Mais à la fois, je pense que les élèves ont envie de revenir, donc je pense qu'on n'en perdra pas trop sur la route.
Tu disais des profs français de claquettes, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une pratique, c'est pas une pratique franco-française. Est-ce que tu vois un engouement quand même pour cette œuvre?
Alors oui, c'est vraiment une discipline qui plaît énormément. Plein de gens pensent que c'est inaccessible. Donc là, moi, c'est un travail que je fais depuis quelques années, entre autres dans la Drôme, parce qu'il n'y a pas de cours de claquettes, ou peu. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas si nombreux que ça. Donc à Montpellier, il y a un prof. Après, il y a plein de profs dans des petites structures, vraiment des écoles de claquettes où il y a 4-5 niveaux, où on fait venir des profs à l'international, où vraiment les claquettes, il y a vraiment du niveau. Je ne sais pas, il y en a une dans chaque grande ville, quoi. On va dire Lyon, Montpellier, Valence, Toulouse, Paris. Alors, Paris, il y a plein de cours de claquettes. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui marche énormément. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a peu de cours et on a beaucoup de monde ? Mais c'est vraiment, ça marche, quoi. On n'a pas de... Puis on a du public. Les gens rêvent beaucoup des claquettes. Donc c'est vrai qu'on a, à chaque fois qu'on danse, on a beaucoup de monde et les gens ont des paillettes dans les yeux.
Mais c'est fascinant pour nous.
qui arrivent en France. Et après, il y a le côté aussi, les stompes, tous ces spectacles musicaux qui sont arrivés il y a 15 ans en France et qui nous aident aussi beaucoup. Parce que les claquettes, c'est pas que Broadway. Et la danse, c'est aussi la musique. Et cette vision-là des claquettes plaît énormément et aux jeunes surtout. Donc ça qui est chouette. On a les gens qui ont Fred Astaire et Jane Kelly dans la tête. On a aussi tous les jeunes qui veulent faire de la musique avec leurs pieds et qui ont le côté instrument un peu plus fort de cette jeune génération. Ouais.
Est-ce qu'il faut investir dans des chaussures, du coup, si on veut s'inscrire ?
Oui. C'est mieux. Après, moi, j'en prête pour les premiers cours. Si vous avez votre pointure dans mon local à claquettes, ça marche. Après, une paire de claquettes, c'est 30 euros, hein, 30 ou 40 euros. C'est pas... Voilà. Et on les garde longtemps. Donc, c'est un petit investissement qu'il faut faire au début, oui.
Et donc vous ne vous laissez pas abattre à l'école puisque vous avez décidé d'organiser un spectacle ?
Oui, on espère. Alors on espère... Donc c'est vrai qu'on a monté un trio piano, claquette, contrebasse qui s'appelle J'ai trois amours, avec donc une contrebassiste Hélène Avis et la pianiste Mélanie Favre-Petit-Mermet de Grenoble. Nous, on n'a pas arrêté les répétitions parce qu'on avait plein de dates là sur cette période novembre, décembre et janvier. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on avait des dates, on a bloqué nos agendas, on va travailler. Donc c'est vrai qu'on a continué, nous, à garder le lien. On espère jouer bientôt et on espère fin mai au Théâtre de la Ville de Valence, le 29 mai, grâce à l'école Danse Avenue qui nous a... Comme on devait faire notre gala de fin d'année et qu'on, je pense qu'on ne pourra pas, au vu de ce qu'on voit arriver, on s'est dit qu'on va inviter nos élèves à venir nous voir jouer.
Génial.
Donc on aimerait faire ce cadeau-là aux Valentinois et entre autres aux élèves de Danse Avenue.
Et c'est quoi l'histoire de ce spectacle ?
Alors, nous parlons d'amour, et d'amour sous toutes ses formes. Donc c'est vrai qu'on parle, on a un répertoire de chansons françaises, de jazz latino. Voilà, on est trois nénettes sur scène, et il se passe plein de choses, et on essaye de vous faire entrer dans notre univers un petit peu fou, un petit peu en décalage, un petit peu tendre. Ouais, on vous raconte des histoires au gré de nos instruments. Donc on a la contrebassiste qui chante, la pianiste qui chante, moi qui fais des claquettes, et on a on a un dialogue entre nous trois sur scène.
Ça donne envie. Et pourquoi, pourquoi ce choix de l'amour ?
Alors déjà, on est parti sur l'histoire de Josephine Baker, qui, moi, c'est une de mes chansons préférées. J'ai deux amours et c'est, nous parle tellement de la vie, de notre vie. En fait, on a toujours plein d'amour. On a l'amour de nos parents, de nos enfants, de nos grands-parents, de nos amis. Voilà, donc c'est déjà un thème qui est assez facile à... qui nous parle, en tout cas, qui parle à tout le monde. On est trois filles, donc c'est vrai que bon, ça, c'était le hasard, on n'a pas fait exprès, mais pour le coup, trois nanas qui parlent d'amour, ben, ça parle à plein de
ça
gens.
Ça change.
Voilà, et voilà, ça ne change pas trop, mais bon, je crois que c'est un sujet qui nous va bien. Et puis, ben, on est parti de J'ai deux amours, donc je jouais avec Mélanie au début, on était toutes les deux, et Hélène est arrivée dans le groupe, parce qu'on avait envie d'avoir une tierce majeure qui est la contrebasse. Je me suis dit, comment appeler notre spectacle ? On était voilà, sur ce côté un peu rétro, mais un peu moderne. Et on s'est dit qu'on était trois, ben on avait trois amours. Et c'est vrai qu'à un moment, dans le spectacle, je dis que j'ai trois amours, le piano, la contrebasse, les claquettes et le jazz. Et vous allez me dire...
Il y en a quatre.
Ça fait quatre, et moi je vous réponds, ben, quand on aime, on ne compte pas. En fait, voilà, c'est un petit peu le pitch de notre spectacle.
Génial. Donc, en mai, on croise les doigts.
On croise les doigts. Sinon, septembre-octobre, c'est sûr, parce qu'on a lancé une cagnotte participative. Et c'est vrai que voilà, nous, dès qu'on peut, on va jouer. On va avoir, grâce à nos généreux donateurs, on va pouvoir louer un théâtre et se produire.
Et donc, bon, on peut peut-être en parler, justement, oui, cette voilà. cagnotte. On la trouve où ?
Alors, on va sur Cocorico. C'est un site de crowdfunding Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vraiment régional. Et tout le monde peut mettre même 1 euro, 2 euros, 10 euros et plus si vous voulez. Et en contrepartie, vous avez soit une place de spectacle, soit une affiche dédicacée, soit vous avez le droit d'assister aux répétitions, soit votre nom dans notre programme. Et ça va nous aider à repartir et à relancer le spectacle, à nous payer des costumes, à nous payer des répétitions, travailler avec le metteur en scène et la location d'un théâtre, la production de notre spectacle.
Il vous manque combien en ce moment ?
Il nous manque encore 2000 euros. Donc voilà, on est quand même à 80% du montant total, ce qui nous, ça nous va droit au cœur, quoi. Encore de l'amour, donc c'est vrai, c'est dans la thématique du spectacle. Et c'est vrai que voilà, ça nous touche. Les gens jouent le jeu, les gens savent qu'on est en difficulté et que vraiment, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde et de la solidarité, même si elle est très présente. Hein. Moi, je ne doute pas de l'envie de notre entourage et du public de nous soutenir. Après, franchement, mais même 1 euro, ça nous fera... C'est pas le montant qui compte, c'est vraiment l'envie de nous aider. Et on est chaque jour, quand je vois le Cocorico, quelqu'un a participé, je suis émue.
Et comment vous rejoindre si on a envie de participer aux cours ou autre, ou voir vos spectacles, être informé ?
Alors le mieux, c'est d'aller sur le Facebook de Danse Avenue ou le Facebook de J'ai trois amours. On a un Facebook spécial, donc vous pouvez voilà, vous abonner à notre page. Et vous pouvez aussi, sur Danse Avenue, laisser vos coordonnées. On vous met dans notre listing et vous serez au courant de tout ce qui se passe.
Merci beaucoup Stéphanie.
Merci à vous.
Et pour ce moment d'information locale, aujourd'hui exceptionnellement, ce sera Mathias qui va vous présenter l'information du jour.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot qui roule. Le mot qui roule, c'est un camion librairie qui se déplace de village en village. Ce camion, il est conduit par Pascal Girard. Il se déplace en Drôme et en Ardèche pour amener des livres quand il n'y en a pas, ou c'est pas possible de construire une librairie par manque d'argent ou de place. Ça fait 5 ans que Pascal déplace ses 3000 bouquins de tout genre. Les romans, BD, mangas, polars. Il y en a pour tous les âges. Il y a des livres pour enfants aussi. Et vous pouvez le retrouver demain à 8h sur le marché de la Voulte ou encore à 15h30 devant la médiathèque de Saint-Laurent-du-Pape. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur lemotquiroule.fr ou appelez le 06 80 23 26 86.
Super, merci beaucoup Mathias.
De rien.
Et maintenant, on accueille Christelle, enseignante au Collège Gérard-Gault, où la colère se fait entendre suite aux informations de la DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme, faisant part de réductions notables d'heures pour l'année scolaire 2021-2022. Alors, bonjour Christelle, avant toute chose.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Christelle, tu es en... Voilà, on a pris langue avec toi pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe au collège Gérard Gault, où mes souvenirs sont bons, en tous les cas si les informations sont bonnes, effectivement c'est une réduction notable d'heures et de classes.
Clairement, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça au collège Gérard Gault. Pour comparaison, par exemple, l'année dernière, pour la rentrée donc était prévue pour la dotation des heures, on avait 680 élèves pour 26 divisions, c'est-à-dire classes. Nous avions 743 heures postes, c'est-à-dire c'est des heures prof, des personnels enseignants, et 54 heures sup déjà à répartir sur les enseignants. Et cette année, de 743, nous baissons à 691 heures et 10 heures supplémentaires, avec seulement une division en moins. Alors qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, nous devrions avoir des heures en moins pour une division et non pas deux divisions. Du coup, la conséquence que ça va avoir, c'est-à-dire que sur les heures des enseignants, en fait, l'État dit préserver les emplois, surtout dans la crise actuelle sanitaire. Or, l'État actuellement va supprimer, rien que dans l'Académie de Grenoble, 160 postes. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant moins d'enseignants, il reporte ça sur des heures supplémentaires. Et l'incohérence qu'on a par exemple au collège Gérard Gault, c'est-à-dire qu'on a par exemple en anglais des collègues qui vont devoir absorber 9 heures supplémentaires, mais un collègue d'anglais va être dans l'obligation d'aller faire 4 heures d'anglais dans un autre établissement. C'est-à-dire que c'est comme si on disait à quelqu'un du privé, écoute, l'entreprise, tu viendras du lundi au mercredi, et puis on va te trouver une autre entreprise où tu iras de jeudi à vendredi, parce que tu comprends, tes collègues vont prendre des heures sup. Donc tu ne pourras plus faire le reste de ton emploi dans notre entreprise.
Ça n'a pas de sens.
Ah mais clairement, et soyons clairs, on n'est pas dans la fabrication de produits, nous sommes une société de services, nous sommes le service public, et nous avons des élèves. Donc ça veut dire moins de disponibilité pour les élèves.
Bien sûr.
Et aussi, donc par rapport à ces heures postes, on nous enlève également des heures d'AP, c'est-à-dire d'aide personnalisée. Alors, soyons clairs, c'est un mensonge, je trouve, sémantique, puisque aide personnalisée, on s'attend à ce que ce soit une aide personnalisée aux élèves. Quand on voit déjà qu'on les a à une heure par semaine, si je fais le calcul, on a plutôt des cours de 50 minutes, ça veut dire qu'on peut consacrer moins de 2 minutes par élève. Et ils vont nous enlever les groupes. C'est-à-dire que, par exemple, les groupes justement d'AP, par exemple en français, nous, en sciences, c'est pareil. C'est-à-dire que sur 2 niveaux sur 4, on nous enlève les groupes, c'est-à-dire les groupes réduits, qui jusqu'à présent n'étaient à peu près jusqu'à 24 maxi. Donc, pas de groupe en sciences expérimentales. On ne peut même plus respecter les textes, c'est-à-dire à savoir faire manipuler les élèves.
Alors, ça c'est quand même, enfin, ça paraît aberrant quand même, parce que d'un côté, vous avez des obligations, et d'un autre côté, vous voyez dans l'obligation de ne pas tenir ces obligations.
C'est ça. Et donc, nous, du coup, quelque part, on est en colère parce qu'on se retrouve être dans la position à devoir, entre guillemets, prendre les élèves en otage. Et ça, on refuse. On va retransposer, en fait, dans le service de l'éducation nationale, ce qu'on constate déjà dans un autre service public, qui est l'hôpital, où les aides-soignants, les infirmiers sont surchargés de travail parce qu'effectivement, ils ont davantage de patients à s'occuper. Ils ne peuvent pas faire leur travail sérieusement.
Oui, parce que quand tu évoquais ces heures supplémentaires, il faut bien dire ce qui est, c'est qu'il y a un temps de travail. Heures supplémentaires, ça porte bien son nom, et c'est qu'il y a un moment où un être humain ne peut pas non plus donner plus qu'il ne peut.
Tout à fait. Et je vais vous donner une dernière aberration. Je viens de recevoir un mail là, 10 minutes avant que je ne prenne l'antenne. C'est-à-dire que notre direction, là, on a un message d'un jeune, en fait, qui a un handicap suite à un accident, là, et qui va devoir scolariser à la maison. Et en gros, on demande, là, s'il n'y a pas des enseignants volontaires pour aller enseigner à domicile à ce jeune. Et qu'on serait payé en HSE, c'est-à-dire en heures supplémentaires effectives. Donc, est-ce à dire que les enseignants n'auraient pas déjà assez de travail?
On a un petit peu du mal à s'y retrouver là, dans tout ce qu'on peut entendre. La réalité, tout ça, ça vient d'où en fait? Ça vient d'une baisse d'effectifs d'élèves?
Ah, pas du tout. Non, non, parce que justement, j'allais vous dire, nous l'année dernière, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, nous avions 680, nous on a cette année 680 élèves. D'accord ? Pour l'année prochaine, la prévision est de 670 élèves, c'est-à-dire, si on fait le calcul, 10 élèves de moins. Et pour 10 élèves de moins, ils vont nous enlever une division, c'est-à-dire une division, c'est-à-dire une classe entre guillemets de 25 élèves, et là je dis bien entre guillemets de 25, parce que notre colère vient d'où ? C'est-à-dire qu'au niveau de la répartition départementale, au niveau de la moyenne, dans notre collège, on va se retrouver à 26,88 élèves par classe, quand la moyenne pour le département de la Drôme est de 24,96. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 3, voire 4 élèves de plus par classe au collège Gérard-Gault. D'autant plus que dans le collège Gérard-Gault, on le sait depuis des années, c'est spécifié, nous avons des catégories socioprofessionnelles, des familles qui sont défavorisées, de l'ordre de l'année dernière 47%, cette année 51%. Donc, c'est des élèves qui sont vraiment en difficulté.
Oui, nous l'avons vu à la rentrée. Plus plus d'attention.
Plus d'accompagnement, tout à fait. Plus d'attention et d'accompagnement. Et donc, du coup, ce manque de moyens va accroître les inégalités. Non seulement des élèves qui sont au sein du collège, parce qu'entre eux, il y en a qui auront la chance de travailler en groupe et d'autres non, selon les niveaux. Et puis, par rapport à ceux des autres collèges qui, eux, auront été bien mieux lotis en termes de moyens. Or, l'État nous dit bien que chaque élève a le droit à la réussite pour tous.
Oui, l'égalité, égalité de chance.
C'est ça.
On a un peu l'impression de rêver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle départementale, régionale, voire nationale, que ces baisses drastiques, ou est-ce que c'est vraiment, vraiment sur le collège Gérard-Gault ?
C'est au niveau national et au niveau départemental, on va le retrouver, mais là, au niveau du collège Gérard-Gault, c'est puissance 10.
Bien sûr, c'est vrai, non, mais c'est quand même malheureusement une direction dans laquelle est entrée l'éducation nationale en règle générale.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle résonne en termes d'économie et pas en termes de pédagogie. Alors que si on regarde les préconisations de PISA, le programme international quand même pour le suivi des élèves, et l'OCDE, qui préconise justement de travailler en groupe pour les élèves et pas seulement dans les disciplines scientifiques, soyons clairs. Et je veux dire, si on remonte, Montaigne ou Rabelais, déjà, ils disaient bien que l'expérience permettait de progresser.
Bien sûr.
Quand on entend le gouvernement, au contraire, selon eux, la priorité, c'est l'éducation dans les discours. Donc, je me demandais comment est-ce qu'ils justifient de diminuer autant de postes.
Ben justement, ce soir, on a une réunion justement avec le directeur académique. Donc, on aimerait bien effectivement entendre ces justifications, parce que là, c'est pas en adéquation. Justement, le discours n'est pas en adéquation avec les moyens qui sont donnés.
Alors, voilà, effectivement, aujourd'hui, rendez-vous à 16h45 devant la DSDEN pour manifester avec une banderole, donc professeurs et parents d'élèves.
Et parents d'élèves,
ou une délégation, donc vous serez quatre à être reçus par la direction. Et demain, jeudi 4 février, du coup, c'est jour de grève au collège avec manifestation, là aussi, des parents d'élèves et professeurs devant le collège.
Tout à fait. Il faut qu'effectivement qu'on montre que c'est vraiment inhabituel, que vraiment les premières victimes, ça va être les élèves, quoi. Comment on peut faire sans cette pédagogie, pas par groupe, pas... Comment faire ? Voilà, donc plus de pédagogie par l'erreur, on ne va plus permettre aux élèves de s'accorder, de se tromper, de réessayer, de rebondir. Il va falloir qu'on avance sur le programme, voilà, et comment faire en sorte qu'ils soient en situation de réussite, de les rendre fiers et confiants. Et ce n'est pas comme ça qu'ils vont apprendre à gérer leur frustration, et ils ne sauront pas réagir face à l'échec, ou alors ils vont le faire de manière démesurée, quoi.
On déshumanise complètement l'enseignement ?
Clairement. Et moi, l'image que j'avais justement en pensant à tout ça, c'est que déjà dans le contexte du Covid, on parle de gestes barrières. Les barrières, nous les avons au collège. C'est-à-dire que nous avons à peu près 800 élèves où, déjà dans la cour, il y a ces barrières, entre guillemets, pour les parquer physiquement déjà par rapport au contexte du Covid. Ils sont les sixièmes dans leurs barrières, les cinquièmes et quatrièmes. Et là, psychologiquement, on est en train de leur envoyer quoi comme message ? Qu'on va vous parquer à plus d'élèves, de plus par 30 par classe. Et en gros, vous êtes l'avenir, mais en fait, finalement, on ne compte peut-être pas... tant sur vous. Enfin, quel espoir on donne à nos jeunes ?
Oui. Qu'est-ce qu'on leur enseigne, justement ?
Qu'est-ce qu'on leur enseigne ? Tout à fait. Et puis, par rapport à l'égalité, c'est-à-dire que, eux, ça veut dire qu'ils n'auront pas les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes heures que leurs élèves, enfin que les élèves prédécesseurs des générations précédentes.
Qu'est-ce qu'on peut faire à part voilà se faire le relais de cette colère et de ces faits? Est-ce qu'on peut est-ce que vous appelez les gens à manifester, à vous rejoindre?
Ah bah écoutez, nous effectivement, on est disposés effectivement à ce qu'ils nous rejoignent, soit par exemple ce soir à 16h45, donc devant la direction académique, ou demain, nous, à partir de 7h45, devant le collège Gérard Gault, où nous allons justement expliquer nos revendications, parce que là, soyons clairs, c'est au cœur même de l'éducation nationale que l'on touche, c'est-à-dire aux élèves, à leur droit d'accès, tous l'accès à l'éducation.
À la même éducation, quel que soit notre milieu.
Tout à fait, c'est ça, et qu'on ait le droit. Et justement, on va supprimer des options. Donc, ça veut dire qu'on va faire une école à deux vitesses, des établissements où, il y aura les options, etc. Donc, il vaut peut-être mieux que mon enfant soit là et pas dans un autre établissement. Non, et comment on fait pour faire le apprendre, le vivre ensemble?
Ouais. Merci beaucoup Christelle de l'enthousiasme et du coup de gueule, mais aussi de l'enthousiasme. Et ça fait du bien d'entendre une enseignante qui est aussi impliquée. Et je pense qu'on est personne ne peut rester indifférent en tous les cas à cet état de fait.
Oui, et je voulais dire que justement, je peux vous dire que c'est l'image justement du collège Gérard Gault que je voudrais envoyer. Je ne suis pas la seule à être impliquée. Tous mes collègues, et pas que les collègues enseignants, que ce soit justement les secrétaires, les AVS aussi qui font un travail formidable. Donc c'est pour ça qu'on est tous en colère, parce qu'on tient à ce que nos élèves soient réellement dans la réussite, que ce soit pas que des mots, que ce soit un fait.
Oui, puis en plus de chouettes élèves, et on les connaît, on commence à en connaître pas mal, et vraiment, il y a une jolie ambiance dans ce collège. Merci beaucoup, Christelle.
Je vous en prie.
Et bon courage.
Merci. Merci, au revoir.
Au revoir.
Oui, effectivement, c'est une tendance un peu inquiétante en ce moment et on en est le relais à Radio BLV un peu trop régulièrement. D'un autre côté, au collège Gérard Gault, une plus belle nouvelle, des élèves du conseil de la vie du collège se promènent dans les couloirs aujourd'hui, les bras remplis de bracelets en tissu. Je vous laisse les écouter.
On est les élèves du CBC, Miliana, moi, Mané et Esteban. Et ça fait maintenant 4 mois qu'on travaille sur un projet pour le réaliser aujourd'hui, mercredi 3. On a fabriqué avec soin plus de 900 bracelets, découpés nous-mêmes, écrits un par un en pensant à tous les élèves de l'établissement. Sur chaque bracelet est écrite une phrase pour vous remotiver. Comme vous avez pu le remarquer depuis la semaine dernière, des affiches avec des mots, des phrases sont accrochées un peu partout dans le hall, les couloirs et les salles de classe. Et ça, c'était que le début du projet. Nous venons aujourd'hui dans votre classe pour l'aboutissement de notre projet qui nous a demandé beaucoup de notre temps, de la créativité, du travail chez nous. Donc les week-ends, les soirées au collège, entre midi et deux, etc. Mais on pensait que ça en valait la peine. Le but est de vous offrir un bien simple bracelet, mais réalisé avec cœur, que nous voulions accrocher à votre poignet pour que vous le gardiez en partant en vacances dans la positivité. Nous en avons fabriqué pour tous les membres du collège, donc agents, chefs, secrétaires, assistants d'éducation, tout le monde. Ce mercredi 3 février est pour nous la journée de la persévérance et ce projet nous est venu à l'esprit en pensant à une élève qui nous a marqués et qui avait toutes ses qualités. Un peu en hommage et beaucoup pour vous, parce que pour que nous gardions moral, pour rien lâcher, ramener du positif dans notre vie de collégien, parce qu'on sait que rien n'est simple en ce moment. Nous espérons que cela vous plaît, nous avons aimé le faire pour vous et merci de nous avoir écoutés.
On a fait des bracelets pour si vous voulez vous accrocher à vos manières.
Merci. Ça y est, elle lui a fait deux
nœuds. Tu vas y arriver. Et je le porte fièrement, mon bracelet, tu vas y arriver aujourd'hui. Merci parce que ça fait plaisir. C'est une très belle initiative pour redonner un peu de bonne humeur et de courage à tout le monde.
Absolument. Et puis, ben voilà, le collège Gérard Gault, il se passe aussi ça. Et c'est aussi grâce au fait que les jeunes sont bien, tout simplement, dans ce collège.
Et grâce aux enseignants aussi. Alors, Alors, nous sommes au téléphone maintenant avec Théo de l'association Valence Diversité. Bonjour Théo.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien et vous?
Ça va bien, ça va plutôt bien. Alors, tu es parmi nous pour nous parler de la communauté, je ne sais pas si je choisis le bon mot, à toi peut-être de me confirmer ou pas, LGBTQIA+.
Exactement.
Alors déjà, qu'est-ce que toutes ces lettres?
Alors, la communauté LGBTQIA+, c'est donc un ensemble de... C'est ce qui désigne en fait les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, pour ça ce sont les plus connus, les LGBT, et QIA+, c'est les personnes queer, intersexes et asexuelles, et toutes les autres catégories d'identité de genre ou d'attirance sexuelle, qui sortent entre guillemets d'un schéma hétéronormatif.
Donc en fait, j'ai l'impression que vous rajoutez au fur et à mesure de plus en plus de lettres pour être de plus en plus inclusif.
Exactement. Les personnes de la communauté ne se sentaient pas forcément toutes, se ressentaient pas elles dans le LGBT. Mmh. Et donc pour permettre à ce que tout le monde se sente intégré, de plus en plus on rajoute de lettres, qui permet que l'inclusivité est de plus en plus grande en fait.
Et donc, à Valence Diversité, vous vous réunissiez en tout cas. À quoi ça ressemble aujourd'hui pour vous?
Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué. En effet, on avait des permanences avant Covid, on va dire ça comme ça, tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Aujourd'hui, on les a toujours, mais en ligne. Donc la prochaine, c'est mardi prochain, en visioconférence. C'est toujours un peu plus délicat, il y a moins d'interactions malheureusement, mais on espère rapidement pouvoir reprendre ces permanences en physique à la Maison de la Vie Associative, parce que c'est quelque chose qui nous manque vraiment et qui permettait de créer du lien avec différentes personnes de la région justement.
Et à quoi servent ces permanences? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors dans ces permanences, en fait, elles ont surtout un objectif principal, c'est d'aider les personnes à sortir de l'isolement. La communauté LGBTQIA+, est touchée par l'isolement déjà en règle générale, aujourd'hui encore plus. Mmh. Et on a créé cet endroit pour créer un endroit safe, où les personnes peuvent se sentir chez elles, sans qu'il y ait de problèmes, de remarques ou de jugements. C'est un endroit vraiment où les gens peuvent venir comme elles le veulent. Après, voilà, on a créé plusieurs, donc on fait ça tous les mardis soirs, et avec plusieurs thématiques. Il y a des permanences où on va aborder des sujets d'actualité qui font l'actualité de la communauté LGBTQIA+, que ce soit politique, culturelle, on l'évoque, on échange dessus. Il y a des permanences où on accueille d'autres associations, comme par exemple l'association l'APGL, donc l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, ou Chrysalide, une association qui vient en aide aux personnes trans dans leur démarche, qui organise des groupes de parole. On recevait le Cégide, qui venait faire des dépistages VIH et hépatite C dans nos locaux tous les 3 mois, ce qui permet à un public de venir hors hôpital, qui n'est pas forcément toujours un endroit forcément sympathique où tout le monde a envie d'aller. Et puis, une fois par mois, généralement le dernier mardi du mois, on organisait, et ça c'est ce qui nous manque vraiment à tous, puisque c'était le moment de convivialité par excellence, c'était un petit pot où on échangeait vraiment sur toutes les thématiques, personnelles ou pas, mais voilà, avec un petit apéro sans alcool, bien évidemment, mais où on échangeait, et ça donnait vraiment... Tout l'intérêt à ce moment-là, c'était de se réunir et de parler, et c'était vraiment l'intérêt de ce moment-là.
Et je t'entendais tout à l'heure parler d'isolement. Effectivement, ça doit être encore plus compliqué en ce moment. Déjà, ça l'est pour tout le monde à la base, mais si on se retrouve, je sais pas, j'imagine avec une famille qui est plutôt intolérante ou dans un milieu pas forcément où on se sent pas forcément en sécurité, comme tu disais, ça doit être particulièrement compliqué. Est-ce que toi, tu as des retours du côté de l'association, de personnes qui vous contactent, parce que ça va pas en ce moment par rapport à ça?
Alors, pour le moment, on a eu des retours sur le premier confinement, des personnes qui étaient vraiment dans l'isolement total et qui avaient vraiment besoin de parler et d'évacuer parce qu'elles étaient dans des situations compliquées. Là, je dois avouer que la situation fait que ces personnes peuvent quand même sortir de chez elles. Et donc, pour le moment, on n'a pas eu de retour de cette situation-là qui est quand même plutôt positif. C'est vrai qu'on préfère que ce soit comme ça. Après, on sait qu'il y a toujours des problèmes, il y a des personnes qui n'osent pas non plus en parler. Et après, il faut savoir qu'il y a des associations qui sont là pour ça. Si je peux me permettre, je voudrais juste redonner le numéro du Refuge,
oui,
qui est
carrément
une association qui est là pour aider les jeunes personnes LGBTQIA+, en situation d'isolement et qui sont fait mettre à la rue par leurs parents ou avec lesquels ça se passe pas très bien. Donc il y a une ligne d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est le 06 31 59 69 50. Et vous pouvez les appeler à n'importe quel moment si vraiment quelqu'un est dans la rue et ne sait pas quoi faire. Appelez ce numéro-là et ils feront tout en sorte pour vous aider justement.
Oui, je t'entends parler donc de la première vague. C'est vrai qu'au final, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont finalement déménagé ou changé de situation après cette première vague pour améliorer les choses.
C'est ça, il y a certainement un effet dans ce sens-là et puis certains ont aussi du coup pris leur envol à la suite de la première vague en prenant leur autonomie, ce qui les a libérés aussi.
Théo, c'est Sylvie, le Valence Diversité, c'est vous qui étiez à l'origine notamment, enfin, entre autres, de la Marche des Fiertés, de la première Gay Pride valentinoise en 2019, c'est ça ?
Exactement, c'est nous qui l'avons organisé. C'est un projet qu'on a mis en place en 2018, qui nous a demandé plus d'un an de préparation. Et donc c'est nous qui avons organisé la première marche des fiertés en 2019, qui devait revenir en 2020.
Oui.
Vu le contexte, cela était un peu compliqué. On espère qu'elle pourra avoir lieu en 2021.
On croise les doigts pour qu'effectivement ça soit le cas. C'était une belle réussite. Il y avait une très belle ambiance et que ce soit les personnes concernées, les familles, les amis, c'était vraiment un chouette moment de partage.
Oui, merci. Et c'est vrai que c'était ce qu'on voulait. On voulait vraiment quelque chose de festif et quelque chose qui permette à tout le monde de se sentir dans sa ville bien. Et de ce côté-là, oui, ça a vraiment été une vraie réussite.
Et pas toujours de parler de ce qui ne va pas, mais parler aussi de ce qui va bien.
Exactement.
2019, ça me paraît extrêmement tard.
Ah ben là pour une première à Valence.
Pour une première marche à Valence, c'est tard. Après, il y avait déjà eu une première marche en Drôme en 2013 à Cré, au moment du mariage pour tous. Mais il est vrai que 2019, c'est très tard à Valence, oui. D'autres associations avaient essayé de la mettre en place. C'était plus compliqué, on est dans une ville qui est taille moyenne et c'est vrai que ce n'était pas forcément évident de mettre ça en place. Il n'y a pas forcément d'anonymat, les gens se connaissent plus ou moins facilement. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu laborieux à mettre en place. D'ailleurs, nous, on a mis un an et demi pour y arriver. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué.
Sylvie parlait de belles choses. Est-ce que pour vous, en ce moment, il y a aussi des belles choses, des beaux souvenirs, des bons moments ?
En ce moment, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on se raccroche justement à cette marche qui a vraiment fait ressortir beaucoup de positifs. On a eu beaucoup de retours de Valentinois qui sont là depuis des années et qui sont venus à cette marche et qui sont repartis pour certains en pleurant parce qu'ils n'imaginaient pas que ça puisse arriver à Valence, des choses comme ça. Donc c'est vrai que cette action-là et ce positif-là nous donne l'envie de continuer et de nous battre malgré le Covid pour arriver jusqu'au bout et pouvoir refaire une deuxième édition. Mais de toute façon, si elle ne peut pas se faire en 2021, elle se fera en 2022, on ne va pas lâcher l'affaire.
C'est quand normalement la date de la Gay Pride ?
Alors, je vais vous la donner précisément. Normalement, cette année, si on arrive à la faire, ce devrait être le 15 mai.
Le 15 mai, bon, on va la noter précieusement.
Voilà, après on va espérer pouvoir la faire. C'est vrai que malheureusement on est un peu soumis aux aléas sanitaires cette année encore.
Est-ce que tu aurais un message à transmettre à nos auditrices ou auditeurs qui seraient eux-mêmes LGBTQIA+ ou leur entourage ?
Un message à transmettre, je ne sais pas, mais juste leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Il y en a qui se sentent un peu isolés et qui se sentent un peu uniques. Tout le monde est unique et tout le monde est. Mais vous n'êtes pas seul en tout cas. D'autres personnes sont comme vous. On peut vivre sa sexualité pleinement en zone semi-rurale, on va dire. On a tendance à penser qu'il faut automatiquement habiter dans des grandes villes pour pouvoir vivre sa sexualité pleinement. C'est possible de le faire à Valence, il n'y a pas de souci. Et il y a des associations qui sont là, que vous ayez des besoins de parler, de renseignements sur l'homoparentalité. Il y a plein d'associations qui sont là dans la région et il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter les autres. Et on se fera toujours un plaisir de vous répondre et de vous venir en aide s'il y a besoin.
On peut rappeler le contact pour vous contacter ?
Alors, pour nous contacter, alors il y a le mail, c'est info au singulier. @valencediversité.fr ou le téléphone au 07 66 16 34 38.
Merci beaucoup Théo.
Merci à vous.
Merci Théo.
Au revoir.
Et c'est l'heure de la bonne nouvelle. Cette fois-ci, c'est Noan qui va nous parler d'une bonne nouvelle qu'elle a trouvée.
Alors, c'était à partir du 24 mars 2020, l'Inde, qui comptait 1,4 milliard d'habitants, a expérimenté le confinement. Les activités et la pollution ont diminué. Habituellement, les sommets de l'Himalaya sont plongés dans le brouillard, mais grâce à ce confinement, ils ont été visibles jusqu'à 200 km. Les habitants des régions du Nord ne les avait plus vus depuis une trentaine d'années.
C'était au moins une bonne nouvelle du confinement.
Eh oui.
Clairement. Nous, on voit peut-être mieux le Vercors. Merci beaucoup, Noël.
Pas de souci.
La suite des programmes... Ou Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Alors, à 13h, vous allez pouvoir entendre Cause de nous, l'émission Fête Maison, créée par les lycéennes de Camille Vernet. Voilà, ce mois-ci, elles parlent de musique. Elles ont invité les copains. À 17h, rediffusion du magazine Environnement, la radio dans le pédalo de ce matin. À 18h, rediffusion de cette locale. À 19h, les voisins d'à côté.
Le nouvel épisode du mois de février.
Le tout nouvel épisode. Et à 20h30, le direct de l'Oreille électrique, le magazine pop rock.
De l'ami Thierry.
Exactement. Merci à toutes et à tous.
Merci à toi, Karina. Merci à nos invités.
Merci à vous.
Et à notre invité et à nos stagiaires qui sont...
Ouais,
c'est un grand plaisir d'avoir des stagiaires en ce moment.
On s'amuse bien. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.